Alors, on va lire Apocalypse chapitre 10, versets 1 à 7. Apocalypse chapitre 10, versets 1 à 7. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Scelle ce qu'on dit, les sept tonnerres, et ne l'écris pas. » Et l'ange, que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Alors, je vais vous asseoir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réviser un petit peu ce qu'on a fait la semaine, ce qu'on a vu la semaine dernière, pour que ça soit frais dans notre mémoire, et on va terminer cette section-là aujourd'hui. Alors, le titre que j'avais donné à ce sermon-là, c'est un avertissement. Au jour du septième ange et de la septième trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Alors, on avait regardé qu'on divisait le texte en trois parties. Le mystère de Dieu proclamé, versets 1 et 2. Le mystère de Dieu programmé, versets 3 et 4. Et le mystère de Dieu prophétisé, versets 5 et 7. On avait dit que les quatre premières trompettes formaient un groupe. C'était des jugements divins sur la nature. Donc, tout ce qui est extérieur à l'homme. Donc, tout y passait, là. La terre, qui était la première trompette, la mer, qui était la deuxième trompette, les fleuves et les lacs, la troisième trompette, et le système solaire et les étoiles, qui était la quatrième trompette. Et les trois dernières trompettes forment eux aussi un groupe. Alors, ce sont les choses que Dieu va envoyer, mais qui vont toucher les hommes eux-mêmes. Alors, vraiment faire la différence, les premières épreuves que Dieu envoie, c'est pour la nature, tout ce qui est à l'extérieur de l'homme. À partir des trois derniers malheurs, ben c'est des choses qui vont arriver, qui sont des jugements divins qui vont atteindre les hommes, tant dans leur corps que dans leurs âmes. Alors, on avait vu que la Bible disait qu'il était pour avoir trois grands malheurs. Alors, on avait vu le premier grand malheur, c'était que Satan et sa horde de démons, ils recevaient de Dieu la permission ou la commission de tourmenter les incroyants et les persécuteurs de l'Église, et qui étaient pour être tourmentés de façon très intense, tant physiquement que spirituellement, psychologiquement. Mais les démons, pour le premier malheur, n'avaient pas reçu l'autorisation de faire mourir les hommes. Et on va voir qu'il y a une progression. Alors, l'intensité que ce que le Seigneur va envoyer avec le premier malheur était tellement grand. Imaginez-vous des hommes qui souffrent à un point où que la seule idée qu'ils ont dans la tête, c'est « moi, je veux crever, je veux mourir ». Il faut que ça fasse bobo, comme on dit, là. Le Seigneur envoyait des choses aux hommes qui étaient pour être d'une très grande intensité de souffrance, mais on a vu que quand on étudie ce passage-là, que ça les avait pas amenés à la repentance. Alors, ils vont vouloir mourir, mais que la mort va fuir loin d'eux. Donc, autrement dit, la porte de sortie qu'il aurait pu avoir s'arrêter, on va se suicider. Mais Dieu permettra même pas qu'il se suicide. Alors, s'il ne se suicide pas, ça, c'était la cinquième trompette. On avait vu aussi le deuxième grand malheur, qui était une armée de 200 millions de démons. Quand on pense à ça, 200 millions de démons, là, les démons qui vont se mettre, que Dieu va permettre qu'ils soient comme relâchés sur la terre, et eux, ils vont avoir une mission qui va avoir été différente de la cinquième trompette, c'est la sixième trompette. Leur mission, c'est que Dieu va permettre qu'ils puissent tuer le tiers de l'humanité. Des fois, on s'arrête, dit actuellement, on vient de à peu près 8 milliards, on approche les 9 milliards. Donc, le tiers, ce serait 2 milliards et demi de personnes que Dieu va permettre que les démons tuent les êtres humains. Alors, plus on voit que les malheurs, les malheurs deviennent de plus en plus intenses. Et ça, c'était la sixième trompette. Donc, on avait annoncé sept trompettes et trois grands malheurs. Donc, normalement, on s'attend à ce qu'il y ait un ordre. Tu sais, quand Dieu dit, il parle des sceaux, puis les sceaux, au sixième chapitre, il parle du... on a la réponse beaucoup plus tard. Ici, on a ça, au chapitre 8, chapitre 9 et 10, sont comme une parenthèse. On avait un petit peu l'histoire des parenthèses la semaine dernière. C'est important si on veut souvenir. Alors, le mystère de Dieu proclamé, dans les versets 1 et 2, on voit que c'est un autre ange, qui est puissant, qui descendait du ciel, environné d'une nuée. On avait regardé la semaine dernière qu'à cause de l'apparence de l'ange, qu'on avait déduit que ça ne pouvait pas être un ange ordinaire. Souvent, on parle dans les Écritures de la personne de Christ comme étant un ange aussi. Donc, on avait pensé que les versets 1 et 2, l'ange dont on parle dans cette section-là, c'est vraiment la personne de Jésus-Christ. Donc, l'identité du proclamateur, celui qui proclame le message, c'est vraiment Jésus-Christ. À cause de la nuée, à cause de... On avait vu la semaine dernière que ça rattachait avec Luc 21, où on voit le Fils de l'homme qui revient sur une nuée. Et là, c'est ça que ça parle aussi, une nuée. Donc, on avait la nuée, on avait aussi le fait qu'il s'assoit... Il y avait un arc-en-ciel sur la tête. Donc, on avait vu que l'arc-en-ciel avait vraiment... ça représentait sa couronne de roi. Et que ça représente aussi la fidélité de Dieu. C'est intéressant, ce qu'on voit souvent, je n'avais jamais porté attention à ça, quand tu vois, ça va bien aller, là, ils mettent un arc-en-ciel. Là. Mais si vous comptez les couleurs, vous allez voir qu'il y en a juste six. C'est intéressant, ça. Puis, la vraie arc-en-ciel, il y en a sept. Alors, je trouve que c'est... Même le symbole qu'il a choisi, je pense qu'il y a... c'est pas un symbole chrétien, comme on pourrait dire, parce que pas l'Apocalypse, mais dans la Genèse, quand que l'arc-en-ciel, c'est vraiment sept couleurs. Un arc-en-ciel, c'est sept couleurs. Alors, ça dit qu'il y avait un arc-en-ciel sur la tête. Bien sûr, l'arc-en-ciel représente sa fidélité, la fidélité de celui qui proclame la nouvelle, la fidélité à son alliance et à ses promesses. Dieu, quand il a dit, par exemple, qu'il n'enverrait plus de déluge, il n'aura plus de déluge, jamais. Alors, Dieu est fidèle à ses... Comme Lucie le disait tantôt, c'est vrai que Dieu est fidèle. Et quand on parle de son visage, c'était comme le soleil. Bien sûr, on parle d'un visage hyper éclatant. On avait vu Apocalypse 26, 13. 13 à 15. Alors ici, c'est l'expérience... De conversion de Paul. Il raconte son expérience de conversion. Il dit, « Je vis au roi en chemin, vers le milieu du jour, une lumière du ciel plus éclatante que le soleil et qui resplendit autour de moi et de ceux qui m'accompagnaient. Et étant tombé par terre, j'entendis une voix qui me parlait et me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Alors je dis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et il me répondit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » On voit ici l'image du rayonnant comme le soleil, et il dit que c'était encore plus éclatant que le soleil. Si jamais vous vous essayez, là, quand il y a une journée qui va faire vraiment beau, là, Levez votre tête en entrant au ciel, puis essayez de la regarder longtemps, c'est-à-dire vous allez voir que vous n'êtes pas capable. Et ça dit que pour la conversion de Paul, que c'était plus éclatant que le soleil. On parle de Jésus comme étant une lumière plus éclatante que le soleil. Et on parle de ses pieds comme des colonnes de feu. Alors, on peut parler de, à la sortie d'Égypte, les Israélites avaient été guidés par une colonne de feu durant la nuit. Ça représentait véritablement la présence de Dieu en vue de protéger et de guider le peuple. Et ça dit dans le verset 2 qu'il tenait à la main un petit livre ouvert. Alors, on avait partagé l'idée la semaine dernière, est-ce qu'on parlait le livre qui avait été donné par Dieu le Père à Jésus et le livre qu'on parle ici, le petit livre, c'est quand on lit, on peut se demander, est-ce que c'est le même livre? Je vous avais lu un peu la semaine dernière l'opinion de Paulin Bédard qui croit que c'est fort probablement le même livre, mais que c'était petit pour mentionner le fait que les événements qui étaient pour arriver n'étaient pas les événements complets, étaient plus petits vers la fin. Autrement dit, les événements qui étaient pour arriver vers la fin. Et on avait vu dans le verset 2, la deuxième partie du verset 2, la souveraineté de celui qui proclame le message. On avait parlé de mettre le pied sur la mer et de mettre le pied sur la terre. Alors vraiment, le message de mettre le pied sur quelque chose, c'est une indication que tu maîtrises la chose sur laquelle tu mets le pied. Alors, il maîtrise à la fois la mer, et on avait vu qu'il y avait plusieurs versets dans les Écritures qui utilisent l'image de la mer pour parler des nations. Alors, c'est comme si il voulait dire, il met son pied sur les nations, et sur la terre, il y en a plusieurs aussi qui ont pensé que la terre faisait référence à Israël. Donc, à quelque part, c'est vraiment l'idée de la souveraineté de Dieu sur toute la création. Donc, le Seigneur met, l'ange met le pied, donc on sait que c'est le Seigneur Jésus, une indication pour montrer qu'il a le contrôle et qu'il est souverain sur toute la création de Dieu. Et le verset 3 et 4, on avait vu qu'il y avait quelque chose qui était mentionné. Ça dit, 3 et 4, ça dit, il s'écria d'une voix forte. Alors, c'est l'ange qui parle, c'est Jésus-Christ qui parle. Il s'écria d'une voix forte. J'imagine que quand le Seigneur parle fort, il n'y a pas personne qui peut dire, j'ai pas compris. Alors, il s'écria d'une voix forte. Et après, qu'il eut, comme un lion qui rugit. On avait parlé de l'image du lion. Le lion dans les Écritures, justement dans l'Apocalypse, au chapitre 5, verset 5, ça dit « Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas, voici le lion qui est de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et en délier les sept sceaux. » On parle de Jésus comme étant le lion. Ici, il dit qu'il parle, il a les pieds sur la mer, un pied sur la terre, et il rugit, il parle comme un lion, avec la force du lion. Après qu'il eut crié, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Donc, à quelque part, il y a quelque chose. Jean a compris le message des sept tonnerres. Ça dit dans le texte que, comme il a voulu écrire et expliquer aux gens qu'est-ce qu'il était pour avoir dans les voix qu'ils entendaient dans les tonnerres, il y a eu la parole de dire « N'écris pas, scelle-les, je ne veux pas que tu parles de ça tout de suite. » Alors, ça dit, il fit entendre leur voix, et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Ça, c'est la preuve que Jean, l'apôtre Jean, avait compris le sens des messages. Il dit, et j'entendis du ciel une voix qui me disait, « Scelle les choses que les sept tonnerres ont dites, et ne les écris point. » C'est parce que Dieu voulait que les choses qui étaient pour être annoncées demeurent scellées et secrètes jusqu'à la fin. Et et il s'écria d'une voix forte, comme un lion qui rugit, et après qu'il eut crié, les sept tonnerres firent entendre leur voix. On parle de sept. Il y aurait une étude extrêmement intéressante à faire juste à partir du chiffre 7. Quelqu'un qui prendrait tout son Apocalypse, qui étudierait toutes les, L'Apocalypse est la présence, l'omniprésence est présente partout dans le livre de l'Apocalypse. Pourquoi le chiffre 7 est mentionné aussi souvent? C'est parce que c'est le chiffre de la perfection, le chiffre de la plénitude, le chiffre de la totalité de quelque chose. Alors, quand on dit « les sept tonnerres firent entendre leur voix », ça veut dire un coup de tonnerre, on sait qu'est-ce que ça fait. Hein, ça. Moi, je sais bien que des fois, il y a des fois l'été, là, je lève vraiment, le tonnerre est tellement fort là, que tu as peur. Puis c'est un peu normal qu'on ait peur parce que des fois, il sonne pas ordinaire. Là. Ça dépend où tu restes. Là. Si tu restes proche d'une montagne ou quelque chose où il y a de l'écho, il y a des fois, là, tu lèves de terre à quasiment 6 pouces. Ça claque dans le dash, comme on dit. Alors ici, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Bien sûr, ça parle qu'à l'intérieur des messages qu'il y avait dans les sept tonnerres, il y avait de la force, il y avait de la colère, il y avait de la puissance. Et ça voulait dire qu'il y avait des choses importantes à l'intérieur de ça. Mais Dieu n'a pas voulu que Jean écrive qu'est-ce qu'il avait compris. La preuve qu'il avait compris, puis il voulait l'écrire. S'il n'y aurait rien eu compris, il aurait dit « c'est quoi ?» Il s'est dit qu'il voulait l'écrire, donc il avait compris le sens de la colère qui était contenue dans les sept tonnerres. On avait vu le psaume 29, versets 3 à 7, qui nous parle un peu de la voix de l'Éternel. Moi, quand je lis ce passage-là, ça me fait toujours penser à quand on va visiter les chutes Montmorency. Chaque fois que je vois là, je pense toujours à la voix de l'Éternel. Parce que quand tu te mets au-dessus, là, puis tu entends ça, que surtout au printemps, si tu y vas au mois de mai, là, ou que les neiges viennent de fondre, ça te coule en bas, là. Quand on parle de la voix de l'Éternel, c'est étourdissant tellement c'est fort. Là. Alors, c'est de ça qu'on parle ici. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux, le Dieu de gloire. L'Éternel fait tonner sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est magnifique. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme un veau. Le Liban et le Syrion comme un jeune buffle. La voix de l'Éternel jette des éclats de flammes de feu. On parle de tonnerre, on parle d'éclairs. Et moi, j'aime bien ce passage-là parce que si quelqu'un a déjà été sur Internet pour regarder les sept du Liban, ben non, si vous avez déjà été dans l'ouest, là, à Vancouver, les arbres qu'il y a là, ça dit que la voix est puissante pour les faire bondir comme un veau. Quand tu pognes un arbre de ce grosseur-là pour le faire bondir, il faut que tu aies de la voix pas mal. Là. Alors, la voix de l'Éternel est puissante. Et verset 4 dit, « Quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui me disait, « Scelle les choses que les sept tonnerres ont dites et ne les écris point. » Bien sûr, je pense qu'on est en train de dire ici que le Seigneur, les choses qui sont contenues, dans la colère qu'il y a, dans le Seigneur ne veut pas qu'il soit partagé immédiatement. Ça nous fait penser un petit peu à d'autres passages des Écritures où on parle de sceller quelque chose. Dans Daniel, au chapitre 12, dans verset 4 et le verset 9, nous parle aussi de cette idée-là que quand Dieu veut que quelque chose demeure secret, il demande à l'auteur de sceller. Donc, ça veut dire qu'il ne veut pas que les choses soient dites tout de suite. Verset 12, verset 4 et verset 9. « Et toi, Daniel, cache ces choses et scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le parcourront et la connaissance augmentera. » C'est dans le verset 9 et il dit « Va, Daniel, car ces paroles sont cachées et scellées jusqu'au temps de la fin. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire qu'actuellement, je pense qu'on est dans les temps de la fin, et la Bible nous dit que les chrétiens vont comprendre les choses que les autres ne comprendront pas. Puis c'est ça que ça dit. Scelle ce livre jusqu'au temps de la fin, plusieurs le parcourront et la connaissance augmentera. Puis ça dit, car ces paroles sont cachées, scellées jusqu'au temps de la fin. Ça veut dire qu'au temps de la fin, que ce qui est annoncé dans le livre de Daniel, les chrétiens vont comprendre plus que ce qui se passe que les autres. C'est ça que le Seigneur est en train de dire. Et on était rendu là, je pense, la semaine dernière, on était rendu le mystère de Dieu qui est prophétisé. Parce qu'il est en train de nous dire que le mystère de Dieu va se réaliser, va s'accomplir tel que donné dans les prophètes. Apocalypse 10, versets 5 à 7. Et l'ange que j'avais vu se tenir sur la mer et sur la terre leva sa main vers le ciel et il jura par celui qui vit au siècle et des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps ou de délai. Mais qu'au jour où le septième ange ferait entendre sa voix, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'avait déclaré à ses serviteurs, les prophètes. Autrement dit, il n'y a rien de nouveau. Dieu avait tout donné ça. Si on prendrait les Écritures et on regardait tout ce que les prophètes disent sur la fin des temps, on serait surpris de voir le nombre de choses que Dieu a révélées à ses prophètes. Et ici, il y a une chose intéressante, c'est le serment solennel. L'ange, qui est Jésus, dit, il jure par celui qui a fait le ciel, la terre, la mer, il jure. Quand Dieu ne ment jamais, et que les Écritures utilisent l'expression que Dieu jure, là, tu peux être... Il n'y a rien de plus sûr que ça. Alors, il dit qu'à un moment donné, il n'aura plus de délai et que le Seigneur va accomplir ce qu'il a déclaré dans le passé à l'intérieur de ses prophéties. Donc, juré par celui qui a fait le ciel, la terre, on voit qu'il fait référence au souverain suprême de l'univers, qui n'aura plus de délai. À partir du moment où le septième ange va sonner, il n'y a plus de délai, les hommes auront plus... Là, ça va être final, ça va être l'accomplissement. Donc, on lit un petit peu un passage qui est un peu l'équivalent dans Deutéronome. Il dit, « Voyez maintenant que c'est moi-même, qu'il n'y en a point d'autre Dieu que moi. Je fais mourir et je fais vivre. Je blesse et je guéris. Il n'y a personne qui puisse délivrer de ma main. Car je lève ma main vers les cieux et je dis, je suis vivant éternellement. Si j'aiguise la lame de mon épée et que ma main saisisse le jugement, je rendrai la vengeance à mes adversaires et la rétribution à ceux qui me haïssent. » Verset 40, quand il dit « Je lève ma main vers les cieux », il est en train de dire que, quand il dit un petit peu plus loin, « Je rendrai ma vengeance à mes adversaires et la rétribution à ceux qui me haïssent », faites certain que là, ça va arriver. C'est ça que Dieu dit, tout ce qui a été dit par les prophètes concernant la rétribution des méchants va arriver un jour. Et c'est intéressant dans le verset 7, la première partie du verset 7, il dit « Mais qu'au jour où le septième ange ferait entendre sa voix, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. » Plusieurs choses qu'on peut se poser comme question. Qu'est-ce que c'est le mystère de Dieu? Alors, parce que ça dit qu'au jour où le septième ange fera entendre sa voix, quand il sonnerait la trompette, autrement dit, quand le septième ange va sonner, le mystère de Dieu va s'accomplir. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est que le mystère de Dieu? C'est très certainement ce qui est secret et caché dans l'Esprit de Dieu. Autrement dit, est-ce que Dieu sait tous les événements qui vont se produire dans les temps de la fin? Si on croit qu'on est dans les temps de la fin, est-ce que c'est une surprise pour Dieu qu'est-ce qui se passe à la terre et qu'on est porté à penser que c'est les hommes qui amènent ça? Si Dieu connaît ce qui va arriver, c'est parce que c'est lui qui l'a décrété. Alors, il est en train de dire ici que quand le mystère de Dieu va s'accomplir, c'est ce qui est secret, ce qui est dans le Saint-Esprit de Dieu qui va s'accomplir. C'est aussi, je pense, quand on parle de mystère, c'est aussi quelque chose qui dépasse notre capacité de compréhension. Pas pour rien que le Seigneur a voulu que ça soit connu uniquement dans les temps de la fin. Un mystère, c'est aussi quelque chose que nous connaissons seulement en partie. Les Écritures nous parlent des choses de la fin. Hein. Les Écritures nous en disent pas mal de choses de la fin. Mais les Écritures nous donnent aussi, on a quand même une certaine limite. Même dans notre compréhension des Écritures, peu importe l'Écriture. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Tu lis la Bible, quand tu l'as lu plusieurs fois, là, tu arrives sur un passage, c'est comme, on jurera que c'est la première fois que tu le lis. Il y a comme un éclairage qui se fait, une certaine compréhension qui se fait que tu n'avais jamais vu avant. Comment ça se fait? C'est parce que l'Esprit de Dieu te parle là et il veut que tu comprennes quelque chose que tu n'avais pas compris avant. Donc, c'est ça. Même si les Écritures nous parlent de certaines choses concernant la fin, on en comprend toujours en partie. Et aussi, le mystère de Dieu, c'est ce qui est souvent expliqué au moyen des symboles. Les symboles, l'Apocalypse en est rempli. La Bible parle beaucoup au moyen des symboles. Souvent, le problème dans l'interprétation des Écritures, c'est souvent de se demander, est-ce que le Seigneur parle ici de façon littérale ou s'il parle ici d'une façon symbolique? Et c'est toujours le contexte qui nous permet de déterminer si c'est symbolique ou si... Puis c'est pas toujours facile. C'est la preuve que quand vous lisez les grands commentateurs de quelques livres que ce soit, et l'Apocalypse en particulier. Si vous prenez l'Apocalypse, vous allez chercher tous les commentaires protestants de personnes qu'on sait que c'est des conservateurs. Vous allez dire, comment ça se fait qu'ils lisent le même texte puis ils comprennent pas la même chose? C'est pas rien de nouveau, là. Alors, les symboles, si on garde, on garde à l'esprit que pour interpréter les Écritures, il y a des règles. Et quand on sait les règles, il faut les interpréter d'une manière uniforme durant toute notre interprétation. Pas facile avec un livre de 1200 pages, là. Parce qu'il y a plein de choses que le Seigneur a dit dans un livre que nous autres, on s'en souvient plus. Pour garder une méthode uniforme d'interprétation, il faut que tu connaisses tes règles et il faut que tu les interprètes de façon uniforme. C'est ce qui fait que même ceux qui essayent, ils se rendent compte que c'est pas si facile que ça. Alors, il faut toujours se méfier de ceux qui disent que eux autres, l'interprétation là, finale, de, moi j'ai compris, puis les autres n'ont rien compris. Moi, j'ai toujours, je me garde une petite gêne parce que je me dis, t'es peut-être mieux de te garder une petite gêne. Parce que si jamais tu te rends compte que tu étais impatente, au moins tu peux te dire, ben au moins j'ai essayé de faire de mon mieux au moment où je l'ai lu. Et aussi, c'est ce qui est déroulé en son temps seulement. Un mystère, c'est quelque chose qui va se dérouler, mais uniquement au moment où Dieu a décidé que ça se déroulerait. Moi, personnellement, je suis convaincu qu'on est dans les temps de la fin. Il y a trop de choses qui coïncident avec ce que la Bible dit puis qu'est-ce qui se passe dans le monde. Convaincu, on est dans les temps de la fin. Alors, le Seigneur nous a dit tantôt dans Daniel que vers la fin, les chrétiens vont comprendre des choses qui avaient été annoncées dans le livre de Daniel. Hey, c'est loin, c'est en arrière. Mais on va comprendre parce que à cause de l'Esprit de Dieu. Et aussi, l'autre idée qui est dans le mystère de Dieu, c'est ça va être compréhensible par seulement ceux qui sont dans l'état d'esprit spirituel nécessaire pour le recevoir. Comme le livre de Daniel, ça aussi c'est un livre qui a beaucoup d'ostination sur le sens que ça peut vouloir dire tel chapitre. Mais la Bible dit que dans les temps de la fin, les choses qui sont mentionnées dans le livre de Daniel, les chrétiens vont le comprendre plus parce qu'il dit que la connaissance va augmenter. C'est aussi, bien entendu, les nouvelles de la victoire. Plus on va approcher de la fin, plus le Seigneur va nous montrer qu'il est en train de réaliser qu'est-ce qu'il a dit sur Jésus, que le retour va se faire, etc. Alors, c'est vraiment aussi la prophétie biblique qui va s'accomplir dans ses moindres détails. Et, finalement, le mystère de Dieu, c'est la victoire finale et révélatrice de la personne glorieuse de Jésus-Christ. Si on tient le livre de l'Apocalypse, ça se dit en anglais, c'est vraiment, puis en certaines versions françaises vont l'appeler aussi, révélation de Jésus-Christ. Une révélation, c'est comme, quand j'étais jeune, on arrivait au mois de septembre, c'était ici à peu près, là. Et là, ils nous mettaient des voiles par-dessus un auto. On n'avait pas le droit de le voir avant telle date. Puis là, je me souviens, quand j'étais jeune, il y avait un garage, là, Odette, là, en fait, la petite patate frite. Là. Puis là, quand ils rouvraient ça le samedi, le monde accourait pour voir ça. Là. Et on sortait le nouveau modèle. C'était une cérémonie. Mais quand on parle de révélation, c'est ça qu'on veut dire. Le livre de l'Apocalypse, c'est pas un livre qui nous qui nous mêle, qui est difficile. C'est vrai qu'il est difficile. Il n'y a pas personne qui a déjà essayé d'interpréter ou de prêcher sur l'Apocalypse qui va dire que c'est facile. Mais l'essence même du livre de l'Apocalypse, c'est la révélation. C'est la révélation d'une personne, la révélation de Jésus-Christ. Plus tu vas lire l'Apocalypse avec intelligence, avec la bénédiction du Saint-Esprit, plus le voile va s'enlever. Mais il va s'enlever sur qui? Pas que tu as fait comprendre les choses, comment ils vont se faire passer à la fin. Tu vas comprendre qui est Jésus-Christ et comment fonctionne la terre et tous les événements politiques, économiques, sociaux, n'importe quoi. Il va te montrer que c'est lui qui est le patron. Il va te montrer qui il est comme personne et la puissance qu'il a pour accomplir tout ce qu'il fait. Moi, le livre de l'Apocalypse, depuis que j'ai commencé à l'étudier, je dois vous avouer que je l'aime beaucoup plus qu'avant. Pourquoi? Parce que je pense que je le comprends un petit peu mieux que les premières fois que je faisais juste le lire en surface. Si tu fais juste surfer sur l'Apocalypse, là, c'est vrai que quand tu as fini, tu dis que je n'ai pas compris grand-chose. C'est normal, parce qu'il y a des livres qu'il faut qu'on les étudie si on veut les comprendre. Et je pense que l'Apocalypse en est un. Mais ça dit aussi dans les premiers versets du premier chapitre qu'il y a une bénédiction qui est rattachée à la lecture, même à la lecture du livre. Moi, ce qui m'a décidé, parce que je sais qu'il y en a plusieurs pasteurs qui ne veulent pas toucher à ça. Parce que ça fait peur quand tu commences ton livre. Je serai jamais capable, les autres. Tu penses que tu seras jamais capable. Jusqu'à un certain point, c'est vrai que tu seras jamais capable pour te rendre au bout exhaustivement, que tu comprennes à la perfection tout le livre. C'est vrai que tu seras jamais capable. Mais d'un autre côté, tu vas augmenter ta compréhension. Et moi, je pense que le phénomène dont on parle de la révélation, c'est que le voile va être enlevé sur la personne de Jésus-Christ. Tu vas le comprendre de plus en plus et de mieux en mieux qui est Jésus-Christ. Et ça, c'est une bénédiction extrême. Moi, déjà, là, à cause du fait, dans la période dans laquelle on se trouve actuellement, il y aurait de quoi décourager l'homme le plus courageux de la terre avec ce qui se passe. Là. On a peur, on voit les choses. Mais juste le fait de te rappeler que Jésus, le Christ, est au contrôle de tout ça de façon parfaite. Il n'y a rien qui lui échappe dans nos vies personnelles comme dans la vie sociale, économique, politique du monde entier. Et quand tu te rappelles ça, mais qu'est-ce que ça a, qu'est-ce quel effet que ça a sur nos âmes? Ça nous rassure. Ça nous rassure parce qu'on se dit, les hommes ont beau être méchants, puis des fois les hommes présentent ce qui se passe actuellement comme étant leur œuvre à eux. Moi, je l'ai déjà entendu, celle-là, plusieurs reprises. Les hommes se vantent, ils pètent les bretelles. C'est nous qui sommes au contrôle, puis c'est nous qui avons produit tel événement, puis tel événement. C'est pas ça que la Bible dit. La Bible dit que celui qui contrôle les événements, c'est Jésus, c'est Dieu. Et ça, ça a tout pour nous rassurer. Alors, trois applications du texte d'aujourd'hui. Justement, le Seigneur Jésus-Christ est souverain et il règne sur tout. Quand on parle de quelqu'un qui règne, ça veut dire que ce n'est pas ceux qui sont sur la terre qui décident des choses. Ils ne règnent pas. Ils ont l'air de régner. Tu sais qu'on parle des rois de la terre, des grands de ce monde. Ils ont l'air de régner. Mais au-dessus d'eux autres, si la Bible dit que Jésus contrôle Satan, moi, je me souviens que j'ai étudié le livre de Job. Ça m'a fait du bien, de ça. Parce que ça dit que Satan, oui, est puissant. Personne ne peut pas dire qu'il n'est pas puissant. Mais le Seigneur le contrôle. Il ne peut pas rien faire, ni à nous, individuellement, ni à la société, sans que Dieu lui permette. Alors, c'est qui est le boss? C'est-tu? Parce qu'il y a un verset qui dit « Le monde entier gît sous la puissance du malin ». C'est intéressant à méditer ça, tu dis, le monde entier gît sous la puissance du malin. Tu es en train de dire que le monde entier est contrôlé par Satan. Mais tu ne peux pas interpréter la Bible juste avec un verset. Il faut que tu ailles voir les autres versets qui parlent. La Bible dit aussi que Satan ne peut pas rien faire si Dieu ne lui donne pas la permission. C'est-tu rassurant ça un petit peu? Très rassurant. Alors, le Seigneur Jésus-Christ est souverain Et il règne sur tout. Rappelons-nous ce fait glorieux et absolument certain. Le Seigneur, souvent, je l'ai entendu souvent, celle-là, on l'a dit souvent, puis c'est vrai. Le Seigneur est au contrôle. Si je ferme une valve dans une chope, puis que cette valve-là, en tournant vers la droite, ça ferme, c'est qui est au contrôle? C'est-tu ce qui se passe dans le tuyau ou c'est ta main? C'est ta main qui contrôle. Alors, la Bible dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est au contrôle. Et la Bible nous dit qu'il nous aime et qu'il nous protège, peu importe ce qui se passe actuellement, peu importe les menaces qu'on peut recevoir de l'extérieur. Quand on a commencé l'étude de l'Apocalypse, là, vous souvenez-vous des circonstances que ces chrétiens-là vivaient au début? Ils étaient dans une époque où l'empereur se prenait pour Dieu lui-même, il voulait recevoir l'adoration. Et on coupait les vives à ceux qui ne voulaient pas faire leur petite... Imaginez-vous si on serait dans une période, on n'est pas encore rendu là, mais si on serait rendu dans une période semblable, où il faut que vraiment que tu aies une foi forte, puis tu dis, non, monsieur, no way, tu me feras pas adorer cette... un empereur, un homme, les hommes les plus pourris de la terre, puis tu voulais qu'on les adore, voyons donc, ça ne tient pas de bout. Mais imaginez-vous les chrétiens de l'époque, ça prenait beaucoup de puissance, ça prenait beaucoup de force pour résister à ces hommes-là. Alors, le Seigneur nous protège, il nous conduit vers la vie éternelle et il nous conduit vers la félicité insondable. J'aime bien les mots insondables parce qu'on parle de vie éternelle, juste l'expression vie éternelle. Puis l'expression de félicité, ça veut dire bonheur. Félicité, c'est le bonheur. Même si j'en parlais pendant 10 ans, je pourrais pas vous expliquer. Paul lui-même dit qu'il ne peut pas expliquer les choses du ciel. Ça dépasse notre capacité. C'est fort. C'est quand on parle de félicité insondable, un jour, on va la connaître, la félicité. Mais on ne pourra pas dire, quand je vais mourir, moi, je vais tout comprendre, là, je vais être dans le bonheur parfait. Mais le bonheur, tu vas le découvrir continuellement, c'est la personne de Dieu lui-même. Vu qu'il est infini, tu n'auras jamais fini de le découvrir. Alors, que Jésus soit béni, loué et adoré à tout jamais. Deuxième application, c'est que la Bible nous dit que dans la personne de Christ, tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont réunis. On lit un Colossiens, chapitre 2, versets 2 et 3. Celui-là, on pourrait en parler longtemps. « Afin que leur cœur soit consolé et lié étroitement ensemble dans la charité pour être enrichi d'une parfaite intelligence pour connaître le mystère de Dieu le Père et de Christ en qui sont renfermés tous les trésors de la sagesse et de la science. » Quand on parle de la science, on parle-tu de la physique, de la chimie, de la biologie? On parle de la science divine. Alors, tous les trésors sont renfermés dans la personne de Jésus-Christ. Alors, plus on va connaître Jésus-Christ par le moyen de l'Apocalypse, plus on va reconnaître jusqu'à quel point les trésors qui sont renfermés dans sa personne dépassent de beaucoup notre capacité de compréhension. Et troisième et dernière application, annonçons hardiment et sans cesse la glorieuse personne et l'œuvre merveilleuse de Jésus-Christ en cette période de l'histoire des hommes où le péché amène tant de souffrances. Si on regarde autour de nous autres, avec le moindre main d'attention, puis on écoute ce que les gens nous partagent autour de nous autres, ce qu'ils vivent, le mal n'a jamais été aussi omniprésent. Les hommes souffrent plus que jamais à cause de tout ce mal-là qui est répandu. Alors, nous, on a la vérité, on connaît la personne de Christ, on connaît son œuvre, et c'est notre devoir. Le Seigneur ne nous a pas dit, si ça vous tente, là, vous partagerez l'Évangile. C'est un commandement. Puis là-dessus, on est manquant. Moi, je dois avouer le premier que je ne saisis pas toujours les occasions que Dieu met devant moi pour partager l'Évangile. Puis on est tous pareils. On manque de courage des fois, on manque, ça peut être de la paresse, ça peut être toutes sortes de péchés, mais on a besoin de demander à Dieu, donne-moi le courage et la hardiesse de partager l'évangile de la glorieuse personne et la merveilleuse œuvre de Jésus-Christ à mes parents, à mes amis, à mes voisins, à mes collègues de travail. Que toute la gloire soit donnée à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.